Voilà, alors j'ai choisi, la première fois, vous avez eu une méditation, une introduction au prologue de Jean. La deuxième fois avec Frère Christophe sur le thème de demeurer. Et aujourd'hui, j'ai choisi avec vous de partager quelque chose qui nous est cher, c'est la manière dont Jean, dans son évangile, parle d'un certain disciple que Jésus aimait. Alors, comme vous voyez, nous choisissons des thèmes et des moments dans l'évangile de Saint Jean différents, au lieu de le suivre de manière suivie, pour que nous ayons comme ça une approche diversifiée, que nous puissions goûter des grands aspects de cet évangile qui est l'évangile mystique. Alors j'ai choisi un thème beaucoup trop large pour 25 minutes évidemment, et je vous donne l'intuition tout de suite dont je suis parti, qui ne vient pas de moi, qui vient de Nicolas Butet, qui a écrit un livre que je vous recommande, « Le disciple que Jésus aimait ». Et son intuition, c'est d'abord de constater que cette expression « le disciple que Jésus aimait » n'apparaît dans l'évangile de Jean que tard, au chapitre 13, c'est-à-dire au moment de la dernière scène. Je vais y revenir. Et à partir de ce moment-là, à partir de la dernière scène, du dernier repas, cette expression revient 5 fois dans l'évangile. Et ces 5 textes vous ont été donnés par mail. Je vais vous les citer très rapidement. Vous pouvez facilement les retrouver. Et l'intuition très belle, je trouve, de Nicolas Butet, c'est de dire, eh bien, allons voir ces 5 passages et voir s'il n'y a pas comme un portrait, si vous voulez, du disciple bien-aimé, ou autre traduction, que Jésus aimait, le disciple bien-aimé. Alors, quels sont ces passages? Très rapidement, celui que nous allons étudier ce matin, Jean 13, à table, tout contre le sein de Jésus se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. Alors, vous voyez, j'emploie diverses traductions. Jean 13, 21 à 25. Donc, c'est le dernier repas. Et puis ensuite, moment capital par excellence, au sommet de la révélation, au chapitre 19, 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Donc Jésus est sur la croix, ce sont les derniers moments, et il voit sa mère, la Marie, debout, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Ce disciple n'a pas de nom propre directement nommé. Et puis, après la résurrection, les disciples sont en train de pêcher avec Pierre, et puis Jésus, ils ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus leur dit, lancez les filets à droite, vous connaissez, j'espère, le passage, 21:7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il est loin, mais il reconnaît de loin, grâce au signe du miracle de la pêche miraculeuse, qui est sur le rivage et qui leur a donné cet ordre, c'est le Seigneur. Et puis, alors j'ai oublié un passage, pardon, Jean 20, juste le soir de la résurrection, Marie-Madeleine est éplorée parce que le tombeau est ouvert et elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et enfin, 5e passage, apparition du Christ ressuscité à Pierre et à ses apôtres, Jean 21, 20. Pierre suit Jésus et puis il se retourne parce qu'il voit qu'un disciple les suit. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Donc, c'est la dernière citation. Donc, vous voyez, il y a deux, la première mention du disciple que Jésus aimait et la dernière se tiennent, puisque à la dernière, il est mentionné très explicitement celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Donc c'est ça que nous allons maintenant regarder de plus près. C'est une expression propre à l'évangile de Jean. Et comme nous venons de le découvrir, elle est concentrée sur un temps très court, puisque elle va de la dernière scène aux apparitions de Jésus ressuscité, donc dans l'espace des 40 jours de la Passion jusqu'à l'Ascension. C'est dans cette période de temps de la révélation que apparaît cette figure du disciple bien-aimé, donc au sommet de la révélation, au cœur du mystère du Christ, dans le mystère de sa croix et de sa résurrection. Alors Jean 13, maintenant je fais un focus, un zoom sur le passage très précis qui nous occupe ce matin. Le contexte large, c'est la dernière Pâque de Jésus, la Pâque approche, Jésus prend un dîner, Jean ne spécifie pas de quoi il s'agit, pendant un dîner, Jésus se lève de table, lave les pieds de ses disciples et commence à leur donner son dernier enseignement. Et puis soudain, en plein milieu, je vais vous lire, en plein milieu, il commence à parler avec ses disciples, et soudain, sur l'amour fraternel, ayant dit ces choses, Jésus se trouble en son esprit. Je suis au chapitre 13, verset 21, pour ceux qui ont apporté leur évangile, leur Bible. Ayant dit ces choses, Jésus se trouble en son esprit, il témoigne et dit « Amen, Amen, je vous dis, un de vous me livrera. » Donc c'est dans un contexte dramatique, il est en train de prendre le repas que l'on découvrira après comme étant la dernière scène, et donc aussi l'Eucharistie, dont ne parle pas explicitement Jean. Et au milieu, il révèle qu'il sait très bien qu'un traître est là qui va le livrer. Donc c'est le contexte immédiat. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Et tous ces détails sont importants, parce que nous allons comprendre bien mieux ce qui se passe alors au moment où est nommé pour la première fois le disciple bien-aimé. Je vous lis. Un de ses disciples est à table, tout contre Jésus, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre, donc, lui fait signe pour tâcher de savoir qui est celui dont il parle, autrement dit, qui est le traître. Il s'allonge donc ainsi sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui c'est ?» Jésus répond, et voilà, et après la suite, que je ne vais pas prendre avec vous. Et donc nous allons nous arrêter en premier lieu, avant d'entrer de manière très précise dans les détails de certains mots qui vont nous révéler des choses très belles, eh bien d'abord posons-nous la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le disciple que Jésus aimait? Eh bien tout simplement déjà, comme traduit le chanoine Hostie, ça traduit une préférence. Alors, il y a de multiples explications, je vous les passe, toutes aussi belles les unes que les autres, des pères de l'Église. Je vais garder celle qui nous est chère, l'interprétation de Thomas d'Aquin, qui a commenté l'Évangile de Jean très en profondeur, et qui dit ceci. Comment se fait-il que Jean puisse être le préféré, le disciple aimé de Jésus? Jésus aimait chacun de ses disciples, évidemment, comme il aime chacun d'entre nous. Mais cependant, eh bien voilà ce que dit Thomas, il aimait Jean en premier lieu à cause de la perspicacité de son intelligence. Alors, je ne peux pas développer ici, ça serait trop long, mais gardons ça dans notre esprit, dans notre cœur. Et Thomas, qui est un maître, hein, saint Thomas d'Aquin, qui est un maître en théologie, dit « Un maître aime toujours mieux les disciples qui sont plus intelligents, plus perspicaces, qui posent des questions, qui veulent savoir, bien sûr. » Et puis, il aime Jean particulièrement à cause de sa pureté. Ça, c'est la grande tradition de l'Église, hein, Jean le plus jeune, qui n'a jamais été marié, qui est complètement dédié au Christ. Et puis à cause de sa jeunesse, parce que Jean, nous le savons, puisqu'il est mort au début du premier siècle après Jésus-Christ, du deuxième siècle, Jean était le plus jeune des apôtres. Il est mort le dernier, bien après tous les apôtres, il était très jeune. C'est très beau, alors on pourrait mystiquement interpréter ça. La perspicacité de son intelligence, c'est sa foi, sa pureté, c'est son amour, et sa jeunesse, c'est son espérance. Vous voyez, on retrouverait les trois caractéristiques de la vie chrétienne. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire le disciple bien-aimé, aimé de Jésus ? Eh bien, Jésus aime, vous savez qu'il y a de multiples formes d'amour, il y a un amour d'amitié, un amour de bienveillance, un amour que les Grecs appelaient « eros », qui est dans la Bible aussi. Et puis, il y a un amour de charité, « agapé ». Et c'est ce terme-là qui est utilisé dans l'Évangile. C'est « Jésus aime Jean ». Alors, maintenant, je dis qu'il s'agit de Jean. La tradition de l'Église a toujours compris que le disciple bien-aimé était Jean l'apôtre, même si aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis le 19e siècle, beaucoup d'exégètes et de théologiens ont remis cela en cause. Quand nous proclamons l'évangile de Jean, nous disons évangile selon Jean. Voilà, ça fait partie quand même de la foi et de la tradition de l'Église. Eh bien, Jésus aime son disciple aimé selon l'agapé. Et quelle est la première caractéristique de l'agapé ? Eh bien, l'agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu, l'amour que Dieu est lui-même. Un amour complètement gratuit, un amour divin, infini. Et donc on pourrait dire, si vous voulez, le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple qui a fait, je cite Nicolas Butet, l'expérience de l'amour fou que Dieu lui porte. Vous voyez, saint Augustin a cette très belle remarque en comparant Pierre et Jean, puisque dans l'évangile de Jean, Pierre et Jean sont souvent ensemble, par exemple au tombeau, et puis après au bord du lac, etc., et puis pendant la Passion, eh bien, saint Augustin très finement commente Pierre est celui qui aime Jésus, on le voit, hein, il est Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Etc. Pierre, c'est la générosité de l'amour. Pierre, c'est celui qui aime Jésus. Mais il y a un disciple qui est celui qui est aimé par Jésus. Vous voyez, le mouvement inverse est finalement le mouvement premier de l'agapé, l'amour divin. Voilà les deux manières dont on peut approcher le disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce que signifie cette expression ? Alors maintenant, je voudrais avec vous regarder très précisément ce qui est dit de ce moment où pour la première fois, il est mentionné le disciple que Jésus aimait. Vous savez très bien que quand quelque chose apparaît pour la première fois, c'est toujours très important. Je vous relis. « Un de ses disciples est à table, tout contre Jésus, celui que Jésus aimait. » Alors, il y a donc deux moments que je vais maintenant regarder avec vous. Il y a le premier moment qui est le moment où Jean, on va l'appeler Jean par simplicité, par réalité, par réalisme, Jean est là, je traduis directement, dans le sein de Jésus. C'est-à-dire qu'il est dans une position, Alors, il paraît que tous les exégètes vous expliquent ça, que pour les repas solennels, même chez les Juifs, les repas se prenaient à la manière gréco-romaine, c'est-à-dire que les convives étaient plus ou moins allongés, à la manière gréco-romaine. Et donc, d'une manière que, je vous avoue, je n'arrive pas très bien à visualiser encore, j'ai cherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé, le convive d'honneur, donc l'hôte d'honneur, Jésus, est au centre, et plus ou moins allongé, appuyé sur le coude, et donc celui qui est le plus près de lui, à sa droite, à sa tête, près de lui, près de sa tête et de sa poitrine. Et donc Jean est là, tout près de Jésus. Il est celui qui est vraiment le plus près, qui peut communiquer avec Jésus de cette manière intime. C'est pour ça d'ailleurs que Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus qui est le traître, puisque Simon-Pierre est un peu plus loin, d'une manière ou d'une autre. Même s'il était à gauche de Jésus, il serait de l'autre côté. Donc, c'est le premier mouvement et qui est signifié ici par un verbe qui veut dire, qui a deux significations, semble-t-il, en grec, je vous résume. Prendre place à table, bon, c'est assez évident, il est là, il prend place à table, mais c'est un verbe aussi qui, semble-t-il, peut aussi signifier reposer, comme une offrande dans le temple. C'est très surprenant. Reposer comme une offrande dans le temple. Et là, on voit bien, si vous voulez, que dans l'évangile de Jean, comme dans toute l'écriture d'ailleurs, il y a une position physique très concrète. Jean est non pas assis, comme dans notre tradition occidentale, mais il repose à table, il est à table, allongé tout contre le sein de Jésus, dit l'évangile, donc tout proche du Christ, et en même temps la signification spirituelle, il repose comme une offrande dans le temple. Et le nouveau temple, Jésus l'a dit, c'est lui, c'est son corps, c'est lui-même le nouveau temple. Ça, c'est le premier moment qui est déjà plein de significations que nous rassemblerons dans quelques instants au moment de faire un début de conclusion. Donc, Jean écoute les paroles du Seigneur et finalement, nous apprenons, après coup, nous comprenons qu'il s'agit de la Sainte Cène et de l'institution de l'Eucharistie. Mais Jean ne nomme pas l'Eucharistie, très curieusement. Et puis, il y a un deuxième moment, si on est très précis, que je vous recite au verset 25. « Puisque Pierre lui fait signe de demander de qui il parle, à ce moment, Jean fait un mouvement. Il s'allonge, c'est traduit de cette manière, c'est assez difficile à traduire, il s'allonge donc ainsi sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui sait ?» Donc là, il y a un deuxième moment qui est un mouvement, celui de se pencher sur la poitrine de Jésus. Et le mot qui est employé est le même mot qui est employé au moment de la multiplication des pains, au chapitre 6, « Faites s'allonger les gens », sous-entendu, pour s'apprêter à prendre le repas. C'est un mot extrêmement concret, « se mettre à table pour manger ». Jean a donc le mouvement de se mettre en position pour manger, sur Jésus, si je prends de manière très littérale les mots. Jean, dans son évangile, ne donne pas le récit de l'Eucharistie, mais nous avons là une scène de communion. Premier mouvement, Jean est tout près dans le sein de Jésus. Deuxième mouvement, Jean s'approche dans un mouvement où il est signifié qu'il s'apprête à manger. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, c'est ce que je vous cite Nicolas Butet. Nous avons déjà une clé de lecture. Le disciple que Jésus aimait reposait sur le sein de Jésus comme une oblation sainte sur le nouveau temple qu'est Jésus. De la sorte, il se laisse façonner, transformer par cette proximité avec le foyer d'amour qui est le cœur du Sauveur. Il lui est alors donné de goûter intérieurement cette communion d'amour que le Christ désire vivre avec ses amis. Le réalisme de cette attitude spirituelle de communion avec le Christ est mise en évidence par la description de la position corporelle de saint Jean. Alors, je voudrais, pour terminer, souligner deux choses. D'abord, dans le texte, le premier mouvement du disciple que Jésus aimait, c'est d'être, je traduis littéralement, dans le sein de Jésus. Et c'est une expression qui revient uniquement deux fois. La première fois dans le prologue, où il est dit que c'est Jésus qui est dans le sein du Père céleste, de son Père. Alors, pour ceux qui veulent creuser plus loin, il y a des petites nuances dans le mot grec qui font que, justement, c'est pas tout à fait la même chose, mais ici, pour l'instant, n'entrons pas dans ces ultimes détails. Constatons que c'est le même mot, la même expression qui est employée. Jésus est dans le sein du Père et il nous révèle le Père. Le disciple que Jésus aimait est dans le sein de Jésus. Et être dans le sein de quelqu'un, c'est donc évidemment l'expression, si vous voulez, d'une proximité extrêmement intime, d'une proximité d'amour. Et puis le deuxième mouvement donc, que nous avons vu, Jean, le disciple que Jésus aimait, que fait-il? Il s'approche encore plus, d'une certaine manière, il se penche pour manger. Et donc, la contemplation de la proximité d'amour du disciple que Jésus aimait avec le Sauveur, avec Jésus, la contemplation le conduit à la communion. Alors, je m'inspire, comme vous l'avez compris, beaucoup de Nicolas Butet, mais je trouve ça très beau. La deuxième chose que je voudrais mettre en évidence pour terminer, c'est de dire, eh bien, c'est très extraordinaire la manière dont l'Évangile, tout entier, et en particulier, nous le voyons ici, emploie des expressions corporelles, des gestes extrêmement concrets que Jésus lui-même, d'ailleurs, initie, parce que c'est lui qui offre le repas, c'est lui qui prend le pain, le vin, c'est lui qui fait asseoir les foules pour qu'elles mangent. Enfin, tout l'enseignement de Jésus est d'abord un enseignement par gestes concrets. Ces gestes concrets qui là implique la présence corporelle du disciple que Jésus aimait vis-à-vis de Jésus, signifie et en même temps réalise une réalité qui, elle, n'est plus directement corporelle et visible, et qui est une réalité intérieure que nous appellerions aujourd'hui mystique. Mais justement, attention, le mot mystique ne veut pas dire éthéré dans l'imagination ou évaporé dans des idées, pas du tout. C'est une réalité de la relation personnelle du disciple que Jésus aimait, attiré par Jésus de cette manière extrêmement concrète, et qui signifie deux premiers moments de l'attitude donc du disciple bien-aimé. Un premier moment de contemplation, disons comme ça. Il est dans le sein de Jésus. La contemplation, c'est être en présence du Seigneur, de Jésus, de Dieu, vivre en sa présence, sous son regard. Et là, le disciple que Jésus met ne peut pas être plus sous son regard que d'être dans le sein de Jésus. Et puis le deuxième moment, ce n'est pas le dernier, il y en aurait d'autres, c'est le moment de communion. Puisque, comme je vous l'ai dit, les mots qui sont employés impliquent une préparation pour s'apprêter à manger. Et comme Jean ne parle pas de l'Eucharistie, on peut découvrir ici une petite indication qu'il s'agit quand même bien du mystère eucharistique, c'est-à-dire de manger le Christ à travers sa chair et son sang. C'est très subtil, hein, et il faudrait évidemment creuser davantage pour aller jusqu'au bout. Donc, voyez où nous en sommes. Nous sommes dans un premier moment, et ainsi de suite, il y a quatre autres grands moments où le disciple bien-aimé est là, au pied de la croix, et comme par hasard, c'est le cœur de Jésus qui est ouvert, qui est transpercé. Et le disciple que Jésus aimait est là pour regarder et contempler ce cœur transpercé, le même cœur sur lequel il a reposé au premier moment. Et ensuite, la résurrection et l'envoi en mission. Alors, Il ne s'agit pas ce matin de tout voir, mais je vous donne comme ça la perspective. Nous pourrions ainsi découvrir cinq grandes facettes du disciple aimé de Jésus, que nous sommes appelés, si nous le voulons, à devenir. Et c'est là où les questions que nous avons préparées, qui vont vous être distribuées, peuvent peut-être nous aider à creuser, puisque la perspective de cette école biblique, c'est à la fois de contempler la parole, de la recevoir, et aussi de découvrir ce qui, dans la parole, me transforme, les perspectives et la promesse que cette parole m'apporte. Et donc la promesse de devenir, si je le veux, si je le souhaite, un disciple bien-aimé, peut passer par ces cinq grandes étapes. Et comme nous l'avons vu, ça sera mon dernier mot, la dernière étape où Pierre se retourne au bord du lac, Pierre suit Jésus et se retourne en voyant que Jean les suit, il pose la question à Jésus et lui, en indiquant qu'il s'agissait du disciple aimé de Jésus, celui qui, à la dernière scène, avait reposé sur la poitrine du Seigneur au dernier souper. Et donc, il y a une espèce de cercle, vous voyez, à travers ces cinq attitudes du disciple bien-aimé. Si nous continuons à les creuser, nous pouvons aussi découvrir ce qui, dans notre vie, façonne cette attitude du disciple bien-aimé de Jésus.